Jésus-Christ était le plus grand homme, mais aussi le plus humble, qui ait jamais vécu. Découvrez pourquoi vous devez suivre l'exemple du Christ et devenir humble comme un petit enfant. Maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury.
Bonjour à tous. L'évangile de Matthieu contient un message fort qui s'adresse à tous les éducateurs et aussi au monde entier. Le Christ nous donne un avertissement fort concernant l'importance de l'humilité dans la vie. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, le Christ nous le montre ici par ses propres mots dans un passage de l'Écriture que je vais vous lire dans un instant. C'est ainsi que nous apprenons à le connaître. Il ne peut nous enseigner que si nous avons cette caractéristique. C'est une partie étonnante de notre caractère. Mais je pense que si vous observez attentivement ce point, vous serez stupéfait de voir à quel point le Christ en a souligné l'importance lorsqu'il était sur terre. C'est quelque chose qu'il a dit lui-même. Tout éducateur a désespérément besoin d'humilité. Et nous sommes tous des éducateurs à bien des égards. Vous pouvez donc faire entrer Dieu dans votre vie de cette façon, mais il ne peut pas vous faire réussir ou vous enseigner sans humilité. Remarquez cela dans Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20. « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaida! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. En prenant le sac et la cendre, eh bien, le Christ a accompli toutes sortes d'œuvres puissantes, mais les gens ne se sont pas repentis. Il a chassé de nombreux démons de la vie des gens et les a guéris de toutes sortes de maladies physiques et mentales. Regardez Jean 3, versets 1 à 3. Nicodème, l'un des principaux pharisiens, vint voir le Christ la nuit. Il ne voulait pas le rencontrer pendant la journée parce qu'il était intimidé par ses collègues pharisiens. Donc, lorsqu'il rencontra le Christ, il dit même « Nous savons que tu es un homme venu de Dieu ». Parce que personne d'autre ne peut faire de miracles. Or, je ne vois pas de preuve qu'il se soit repenti, malgré le fait d'avoir reconnu cela. Nous devons donc comprendre cela et ne pas laisser la peur de l'homme nous faire obstacle. Dieu nous enseignera comment faire face à quoi que ce soit dans la vie. Remarquez le verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, c'était une région de vacances fréquentée par les riches. Et il dit, et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Quelle déclaration, c'est étonnant! Ces gens se seraient repentis si le Christ eût été parmi eux. Ensuite, remarquez le verset 25, où se trouve le cœur de tout cela. Le verset 25 dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Quelle déclaration! Quelle déclaration! Le monde entier est séduit! Apocalypse 12, verset 9. « Et Satan est le Dieu de ce monde. » 2 Corinthiens 4, verset 4. Pourquoi? Eh bien, comme le Christ le dit ici, eh bien, Dieu cache cela aux sages et aux intelligents, aux gens les plus intelligents, à cause de leur orgueil,
de leur vanité et de leur manque de repentance. Il était là pour les enseigner, mais ils n'ont rien voulu apprendre. Pourtant, le problème numéro un de ce monde aujourd'hui est celui de la survie de l'humanité. Nous avons donc besoin d'aide. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous donner la compréhension manquante. Donc, vous ne trouverez pas la vérité de Dieu avec les sages et les intelligents. Dans l'ensemble, Dieu dit que parce qu'ils sont si vains et désobéissants, il ne peut pas leur enseigner quoi que ce soit. Et il doit enseigner des bébés, des petits-enfants bien élevés. Or, c'est une déclaration inquiétante lorsqu'il dit qu'il cachera cela aux sages et aux intelligents. C'est un gros problème et c'est quelque chose d'inquiétant quand on y pense en raison de sa gravité. Dieu est vivant et vous pouvez prouver ce fait. Il vint sur terre et parla directement à l'homme. Mais l'humanité ne réussit pas vraiment à saisir ses paroles. Alors pensez à toutes les universités et aux spécialistes. Dieu fait une déclaration générale ici. Je ne donnerai pas la vérité aux sages et aux intelligents. Je la leur cacherai. Je la leur cacherai, mais je la donnerai aux petits-enfants, aux enfants bien élevés, qui sont si désireux de recevoir l'instruction. Et Dieu dit, c'est ainsi que vous devez vous comporter. L'on doit vraiment méditer ces paroles. Remarquez Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il dit que si vous ne devenez pas comme un petit enfant et si vous ne vous laissez pas enseigner par Dieu, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Cette déclaration ne pouvait être plus forte. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, notez cela, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui fait cela est le plus grand dans le royaume des cieux. Ils auront de grandes récompenses. C'est la meilleure nouvelle que l'on puisse entendre quand on pense à cette déclaration. Nous devons donc nous humilier, nous tous, et nous sommes tous des éducateurs, d'une manière ou d'une autre. Mais si nous voulons faire partie de l'œuvre de Dieu et comprendre sa Bible inspirée, eh bien, nous devons nous humilier, sinon nous ne serons jamais dans le royaume de Dieu, si nous ne nous humilions pas comme un petit enfant bien élevé. J'aimerais donc vous parler de comment devenir humble comme un petit enfant. C'est un excellent sujet à aborder. Dans 2 Pierre 2, verset 21, il est dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » En d'autres termes, il nous donne l'exemple afin de nous enseigner et il désire que nous suivions ses traces. Passons maintenant à Philippiens 2, verset 1. Le Christ nous donna l'exemple suprême, alors penchons-nous sur cet exemple et voyons comment il était humble d'une manière que personne sur terre n'a jamais égalée. Personne. Philippiens 2, verset 1 dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Si vous recevez l'enseignement de Dieu, cela apporte de la joie dans votre vie. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Je veux que vous ayez le même sentiment que moi, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, il est encore question de l'humilité, qu'elle vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ici encore, il vous dit comment faire. Puis le verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous avons besoin de sa pensée. Et si vous lisez Jean 1, verset 1, vous verrez qu'il était la parole. Il était avec Dieu avant même que les hommes ne soient créés. Il était le porte-parole de la famille de Dieu. Il était Dieu. Dans Jean 1, ces deux devinrent le Père et le Fils, et maintenant il crée d'autres fils et filles. Dieu est en train de construire une famille. Le verset 6 dit « Lequel existant en forme de Dieu, il était Dieu, n'a pas cru devoir être égal à Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, voilà l'humilité, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est la saison de la Pâque, et la Pâque nous rappelle comment Jésus-Christ fut battu férocement et sauvagement, puis il fut crucifié et défiguré comme aucun homme ne l'a jamais été. Il faut beaucoup d'humilité pour traverser cela. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur nous-mêmes. Cela ne nous aidera nullement. Le verset 9 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » Dieu dit que tout genou doit fléchir si nous voulons être enseignés par lui. Il a donc fléchi les genoux. C'est ce qu'il a fait. Il était Dieu. Et il vint sur la terre en tant qu'être humain, Dieu dans la chair. Il endura toutes ses souffrances afin de payer nos péchés. C'est la raison d'être de la Pâque. Mais comme il est dit, nous sommes sauvés par sa vie, pas par l'effusion de son sang, bien que cela ait payé nos péchés. Au verset 17, il est dit « Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Vous voyez, Dieu nous apprend à être joyeux et à nous réjouir. Lisons quelques versets dans Ésaïe 52, verset 14. Cela montre comment il s'humilia. Ésaïe 52, verset 14. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Eh bien, il s'agit d'un exemple sans précédent. Au verset 3 d'Ésaïe 53, il est dit que le Christ fut méprisé et a abandonné des hommes. Les versets 4 et 5 disent qu'il fut humilié en raison de nos péchés et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il reçut toutes ses meurtrissures avant même de monter sur le poteau pour être crucifié, mais il fit cela pour que nous puissions être guéris miraculeusement, tout comme il faisait lorsqu'il était sur la terre. Il guérit tant de gens. Au verset 6, cela montre que nous devrions plutôt penser à l'agneau pascal. Vous voyez, c'est le moment de penser à ce que fit le Christ pour nous et à comment il nous donna la possibilité d'entrer dans son royaume. Nous ne pourrions même pas y entrer s'il n'avait pas payé pour nos péchés. Et bien sûr, il sauve nos vies. Nous sommes sauvés par sa vie. Le verset 7 dit que le Christ fut amené à la boucherie, tout comme les agneaux lors de la Pâque dans l'ancien Israël. Puis le verset 8 dit « Il est ôté de l'angoisse et du jugement et sa génération, qui la racontera ?» Qui la racontera ? Qui ? Ésaïe est un livre destiné au temps de la fin. Vous pouvez voir cela au chapitre 30. C'est un livre pour le temps de la fin. Alors il dit « Sa génération, qui la racontera ?» Et nous sommes à une époque où Dieu veut que son peuple raconte sa génération. Il veut que nous fassions passer ce message sur sa génération et sur le message de la Pâque. Nous avons un livre sur les jours saints qui vous expliquera cela. C'est une compréhension dont nous avons vraiment besoin. Jetons un coup d'œil à Actes 8, versets 32 et 33. Il s'agit en fait d'une citation de ce que je viens de vous lire sur la déclaration de sa génération. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Qui va annoncer sa génération ? Qui va le faire ? Cette écriture n'est autre qu'une citation du livre d'Ésaïe, qui s'adresse au temps de la fin. Et à Israël, pas seulement à Juda, mais à Israël. Les trois nations israélites en particulier, et tout cela est expliqué dans notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Mais Dieu demande, eh bien, qui va déclarer cela ? Qui va faire passer le message ? Au moment de la Pâque encore plus qu'à d'autres moments ? Et expliquer cela aux gens ? Ce que cela signifie et comment la Pâque est le commencement des jours saints ? Pour nous, c'est là où tout commence. Dieu conserva ce passage dans l'Ancien Testament et il le cite aussi dans le Nouveau. Dieu l'a inspiré, comme il a inspiré toute l'Écriture. Mais regardez qui déclare vraiment sa génération. Qui fait cela? Dieu désire que les gens qu'il choisit fassent cette œuvre. Je vous le dis, je remercie Dieu de pouvoir jouer un rôle dans la déclaration de sa génération, parce que la vie n'a pas de sens sans cela. Nous n'irions nulle part sans cela. Le Christ paya nos péchés par sa crucifixion. Et maintenant, il nous conduit par son esprit. Il vit en nous et il sauve nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Quel honneur de pouvoir déclarer sa génération. C'est spécial. Remarquez le verset 26 de 1 Corinthiens 1. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, alors pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Eh bien, vous ne voyez pas cela, nous sommes appelés les humbles du monde, ces personnes semblables aux enfants, car les autres ont tant de vanité que Dieu ne peut même pas travailler avec eux. Satan a séduit le monde entier. » Et être un intellectuel peut être quelque chose de très négatif si nous ne comprenons pas Dieu et ses plans. Il faut simplement comprendre que nous avons besoin d'un sauveur, verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Le Père construit une famille. Il se recrée en l'homme. Et nous avons l'occasion de faire partie de cette famille. Et si nous agissons avant la seconde venue, si nous faisons l'œuvre de Dieu en déclarant sa génération, alors il nous permettra de partager le trône de David avec lui pour toujours. Et nous régnerons sur la terre et sur l'univers. Au verset 29, il dit qu'il veut simplement que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, que personne ne soit si vain, que personne ne se croit si sage et si intelligent, car il s'agit en fait d'une sagesse et d'une intelligence du monde. Nous devons demander ces choses auprès de Dieu, et remarquez le verset 31, « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » En d'autres termes, louez Dieu et exaltez-le, et ne vous exaltez pas vous-même. Dieu peut vraiment instruire une telle personne, comme l'on peut instruire un petit enfant qui veut apprendre. Nous devrions vouloir tout apprendre. Sans Dieu, nous ne savons rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire sur le plan spirituel. Vous voyez, c'est le Père qui choisit une personne et ensuite il remet cette personne à Jésus-Christ qui travaille avec lui. Mais il ne peut pas choisir les personnes les plus élevées et les plus puissantes. Il ne le peut tout simplement pas. Remarquez le verset 1 d'Ésaïe 66. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Verset 2. « Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur cet homme, sur cet individu, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est un esprit humble. Sur celui qui craint ma parole. » Celui qui tremble devant la parole de Dieu, cette personne craint Dieu et souhaite recevoir de l'instruction. Dieu peut instruire une personne comme celle-ci, comme aucune autre. Relisez ce verset, je vous le dis, c'est un verset puissant. Ensuite, il est question de toute une nation qui naîtra en un jour. Une nation constituée de ces gens qui ont agi, qui ont déclaré la génération du Christ et sa crucifixion. Et son effroyable passage à tabac. Nous devons toujours déclarer cette génération. Vous pouvez lire vous-même Ésaïe 57, verset 15, où il est dit que nous avons besoin d'un esprit contrit et humble afin de raviver l'esprit d'humilité. Vous voyez, il veut que nous fassions renaître l'esprit d'humilité et que nous nous débarrassions de la vanité, de l'orgueil, de l'arrogance et de toutes ces façons naturelles de penser. Suivez l'exemple de Jésus-Christ. Le fait d'être contrit signifie être brisé en morceaux, écrasé, humble, réduit en petits morceaux. Dieu veut que nous soyons humbles. Et vous pouvez lire 1 Pierre 5, verset 5, où il est dit « Revêtez-vous d'humilité, soyez totalement enveloppés d'humilité, revêtus d'humilité. » C'est quelque chose dont nous avons tellement besoin. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.